Chapitre 14. Les prisons du château. Le château de Versailles n'était nullement aménagé pour servir de prison. Cependant, à cette époque du bon plaisir, la prison était comme le complément nécessaire, obligé pour ainsi dire, de toute demeure royale, et on eût plutôt oublié chambres et salons que cet accessoire indispensable. Donc, sans avoir de prison au sens strict du mot, le château n'en possédait pas moins ses locaux disciplinaires, parfaitement aménagés pour cet usage particulier. À cet effet, on avait distrait un certain nombre de pièces du dernier étage, on avait mis de solides barreaux aux fenêtres, de forts verrous aux portes, et on s'était ainsi trouvé en possession d'un certain nombre de cellules qui, pour n'avoir rien de commun avec le traditionnel cachot garni de paille humide, n'en constituaient pas moins une retraite sûre, où l'on pouvait méditer tout à son aise sur les inconvénients d'avoir déplu au roi, ou, plus simplement, d'avoir manqué à la discipline militaire, mais d'où il était superflu de songer à s'évader, car le tout était sérieusement gardé et à l'abri des tentatives de messieurs les prisonniers, gens généralement fort inventifs et ingénieux, surtout quand il s'agit de reconquérir cette chose illusoire qui s'appelle la liberté, et qu'on n'apprécie jamais mieux que lorsqu'on en est privé. Ces cellules étaient tout uniment des chambres à coucher assez vastes, confortablement meublées, et ceux qui les occupaient y étaient fort convenablement traités aux frais du roi. D'abord, parce que le séjour y était en général de courte durée, soit que le prisonnier fût élargi, soit qu'il fût transféré dans une habitation plus propice, comme la Bastille ou le donjon de Vincennes. Ensuite, parce que ces prisonniers étaient toujours des gens de qualité à qui on ne ménageait pas les égards dus à leur rang. Ces chambres servaient aussi de locaux de discipline, réservés aux officiers condamnés aux arrêts de rigueur pour un temps plus ou moins long. Il avait été établi par surcroît de prudence une sorte de corps de garde occupé par une dizaine de soldats et un sergent, commandé par un officier auquel on avait réservé un petit appartement. Officiers et soldats étaient relevés tous les 15 jours de cette garde, considérée comme une assourmante corvée, car il leur était formellement interdit de quitter le château pendant tout ce temps, en sorte que les gardiens se trouvaient, de ce fait, presque aussi prisonniers que ceux dont ils avaient la garde. La corvée était encore supportable quand les cellules étaient inoccupées, ce qui arrivait le plus souvent. Mais dès qu'il y avait un seul occupant, elle devenait lamentable car la consigne était impérieuse et formelle. Dans ce cas-là, à moins d'ordres spéciaux, le commandant de poste s'enfermait avec son prisonnier et tous deux se tenaient mutuellement compagnie. Lorsque le prisonnier était un officier comme lui, le chef de poste se mettait en quatre pour le camarade, appelé peut-être un jour ou l'autre à lui rendre le même service. Il mangeait à sa table, faisait son jeu s'il le désirait, se chargeait volontiers de ses menues commissions s'il avait une maîtresse, allant même jusqu'à autoriser la visite de quelques camarades, se bornant à assister à ses entrevues qui se terminaient en général par un repas bruyant et animé où l'on vidait force coupe à la libération prochaine du détenu. Bref, il s'efforçait par tous les moyens compatibles avec la discipline d'adoucir les rigueurs de la captivité à un camarade, ne lui demandant que sa parole de ne pas chercher à fuir. Il est juste de dire que le même officier, qui se montrait si conciliant et de si bonne composition, n'eut pas hésité à tuer impitoyablement son prisonnier à la moindre tentative de fuite. Il est vrai aussi qu'un gentilhomme avait au plus haut degré le respect de la parole donnée et que, par suite d'un hasard ou d'une complicité, les portes de sa prison se fussent-elles ouvertes toutes grandes devant lui, il eût stoïquement refusé de profiter de l'occasion plutôt que de faillir à sa parole. L'engagement d'honneur pris par un détenu constituait donc pour l'officier de service une garantie morale des plus sérieuses. Mais en dehors de cette garantie, il y en avait d'autres, purement matérielles, qui n'étaient nullement à dédaigner, et ici, Une description des lieux très succincte s'impose. Les prisons étaient situées au fond d'un vaste couloir, immédiatement au-dessous des combles. Toutes les pièces étaient en enfilade et séparées les unes des autres par des cloisons épaisses. Il y avait d'abord le corps de garde, vaste pièce où se tenaient toujours les hommes au complet. Au fond du corps de garde, une porte en chêne massif avec de solides verrous et percée au centre d'une ouverture de 20 cm de côté environ et munie elle-même de deux barreaux épais disposés en forme de croix. Cette porte donnait sur un étroit couloir éclairé sur la gauche par trois vastes fenêtres garnies de solides barres de fer très rapprochées. Sur la droite, sept portes de chêne plein, dont six agrémentées de forts verrous. Au milieu, une petite échelle raide aboutissant à une trappe. La première porte, la seule qui ne fut pas munie de verrous, ouvrait sur l'appartement du chef de poste, composé d'une minuscule antichambre, d'un salon et d'une chambre à coucher. Les quatre suivantes donnaient chacune sur une chambre à coucher, très confortablement meublée, et dont le lit très vaste occupait à lui seul une bonne moitié. Les deux dernières, enfin, donnaient chacune sur un petit appartement composé d'un salon et d'une chambre à coucher, le tout réservé aux personnages de marque, les seigneurs de moindre importance devant se contenter d'une chambre seulement. Chaque pièce était aérée par une fenêtre soigneusement garnie d'épais barreaux. La trappe, située au milieu de ce couloir, aboutissait à une sorte de terrasse située au faîte du toit et sur laquelle les détenus avaient le droit de venir respirer et se promener 2 heures le matin et 2 heures le soir. Le tout était situé sur les derrières du château et donnait sur la campagne. Par cette disposition, on voit qu'il était difficile de s'échapper. La seule issue aboutissait au corps de garde où il eût fallu passer sur le corps à 11 hommes solidement armés. La terrasse était à une hauteur telle que sauter de là eût été s'exposer à une mort certaine. Restaient les planchers, mais les étages du dessous étaient occupés par une multitude d'officiers et de gentilshommes de service, en sorte que le moindre bruit insolite eût infailliblement attiré l'attention et donné l'éveil. L'officier commandant le poste, enfermé comme ses prisonniers, surveillait ses hommes par les trois ouvertures pratiquées à cet effet dans la porte du corps de garde et, lorsqu'il voulait sortir, était obligé de se faire reconnaître pour se faire ouvrir, ce qui rendait une substitution de personnes impossible. On comprend que, dans ces conditions, il pouvait sans risque se montrer accommodant et humain. Tels étaient les lieux dont le chevalier d'Assas était l'unique occupant et où il avait été enfermé à un moment où il eût tout donné pour être libre et protéger Jeanne. On lui avait donné la chambre située à côté du logement de l'officier et qui portait le numéro 1. Le roi n'ayant donné aucune indication spéciale concernant ce détenu qui avait grade d'officier, le commandant du poste, un gentilhomme nommé De Verville, en inférant naturellement que ce camarade était puni pour quelque manquement à la discipline militaire et qu'il sortirait de là après quelques semaines de réclusion. Aussi lui fit-il un accueil très franc, très cordial, le pria de lui faire l'honneur de dîner à sa table, de considérer son appartement comme le sien propre, se mit à son entière disposition et laissa toutes les portes ouvertes, à part, bien entendu, celle du corps de garde qui restait soigneusement verrouillée. Il lui fit visiter les locaux, admirer le joli point de vue dont on jouissait sur la terrasse, et après cette visite, qu'il appela plaisamment le tour du propriétaire, descendit se mettre à table avec son prisonnier, dont la mine franche et loyale lui avait inspiré une vive sympathie dès le premier abord. Pendant ce premier dîner, De Verville, devinant la tristesse profonde du chevalier, lui versa rasade sur rasade pour l'étourdir, débitant 1000 sottises, lui conta 100 anecdotes scandaleuses pour le distraire, et, avec ce tact et cette délicatesse qui caractérisaient les vrais gentilshommes, évita avec soin toute allusion à la situation présente de son convive, ainsi qu'à la faute qui lui avait valu cette situation. Cependant, malgré tous ses efforts, le chevalier, tout en rendant politesse pour politesse, n'arrivait pas toujours à dissimuler le voile de tristesse qui pesait lourdement sur lui, et son hôte, qui s'en apercevait, de plus en plus persuadé que Dassas n'était qu'un officier aux arrêts pour quelques vétilles, s'imaginait tout bonnement que cette tristesse provenait de quelque liaison amoureuse brutalement interrompue par ses arrêts intempestifs, redoublée d'amabilité, renouvelait avec une engageante cordialité ses offres de service, que le chevalier déclinait, tout en remerciant chaleureusement, demandant comme grâce de faire passer un mot à son ami, le comte de Saint-Germain, ce qui lui était accordé sans difficulté. Vers la fin du repas, le chef de poste annonça incidemment, et sans y attacher aucunement d'importance, qu'il comptait sur la parole du chevalier de ne tenter aucune évasion, seule garantie qu'il réclamait pour accorder sans scrupule et sans souci toutes les petites privautés que pourrait réclamer ce gentil compagnon qui, décidément, lui plaisait de plus en plus. Mais, à sa grande stupéfaction, le prisonnier refusa net ce qu'on lui demandait. Et, comme l'officier se récriait, disant que c'était une folie, et insistait vivement, le chevalier, avec cette loyauté qui le caractérisait, le tira de son erreur, avouant qu'il n'était pas le prisonnier sans importance que son hôte croyait, mais qu'il avait bel et bien la garde d'un prisonnier d'État qui ne sortirait probablement de là que pour aller à la Bastille, à moins qu'on ne le livrât au bourreau. Ces paroles, dites sans jactance, avec une mâle tranquillité, firent blêmir le malheureux officier qui murmura « Diable, diable, c'est si grave que cela ? Je comprends maintenant pourquoi vous êtes si soucieux. Mais une évasion ici, allons donc !» Et il haussa les épaules, tant cette idée lui paraissait absurde. Dassas, très calme, attendait que son gardien prît une décision. Celui-ci s'était levé et se promenait avec agitation en marmottant « Diable, diable, ça change les choses, tout cela !» Machinalement, il avait ouvert la porte et allait dans le couloir. En passant et repassant, il inspectait ses hommes, considérait les barreaux des fenêtres, mesurait même du regard la distance qui les séparait du sol, comme s'il eût voulu se convaincre que son prisonnier ne pourrait surmonter tous ces obstacles. Enfin, après avoir bien réfléchi, il prit un parti, revint vers Dassas et, avec une certaine émotion, lui dit « Écoutez, chevalier, vous avez un air qui me revient tout à fait. Parole d'honneur, je me sens porté d'amitié pour vous et, mordieu, je veux vous le prouver. On ne m'a pas donné d'instruction spéciale sur votre compte. À moins d'ordre contraire, vous êtes et resterez pour moi un prisonnier ordinaire. Je ne changerai donc rien à ce qui était convenu et vous resterez libre d'aller et de venir dans cet espace. Seulement, dans ces conditions, il m'est impossible de vous laisser communiquer avec le dehors. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quant à fuir d'ici, croyez-moi, renoncez-y, car, à moins de voler comme un oiseau, c'est de la folie. » Dassas, très ému, serra la main de ce brave homme et, après l'avoir remercié, ajouta avec sa franchise coutumière. N'oubliez pas que non seulement je ne m'engage pas, mais encore que je ferai l'impossible pour fuir, si je le peux. Ainsi donc, cher ami, faites ce que votre conscience vous dictera. Ce qui est convenu, et je ne me dédie pas. Mais puisque vous vous obstinez, n'oubliez pas, de votre côté, qu'à la moindre tentative de votre part, je serai forcé de vous passer mon épée au travers du corps, et, mordieu, je ne me pardonnerai jamais votre meurtre, car vous êtes un trop gentil garçon. Mais je suis bien tranquille. Vous échappez d'ici, cela me paraît bien difficile. » Les deux officiers ne revinrent plus sur cette conversation, mais en revanche se lièrent d'amitié, ce qui n'empêchait pas Dassas de chercher continuellement un moyen d'évasion et son nouvel ami de le surveiller de très près, tout en faisant de son mieux pour le distraire. À quelque temps de là, De Verville annonça qu'il allait être relevé d'ici peu et qu'il passait la garde au baron de Marsay, qui était, d'après lui, un chafouin doucereux et papelard, duquel Dassas devait se défier comme de la peste. Puis il ajouta « Maintenant, cher ami, si je puis vous être utile, faites état de moi. » Dassas demanda pour la deuxième fois de faire connaître à Saint-Germain le lieu de sa détention, ce que son nouvel ami lui promit de faire le jour même. Le chevalier ne savait pas lui-même quel secours il espérait du comte de Saint-Germain, mais sans pouvoir dire pourquoi, il se sentait plus calme, plus sûr de lui, depuis qu'il avait l'assurance que le comte saurait prochainement qu'il était arrêté et détenu provisoirement au château de Versailles.